Bonjour Anne Terrier.
Bonjour Yvon Amar.
Merci beaucoup de venir nous parler du dernier livre que vous avez fait paraître chez Gallimard dans la collection Continent Noir et qui s'appelle « La nuit, tu es noire, le jour, tu es blanche ». Et c'est essentiellement l'histoire de Paula, qui est née au début des années 20, en 24 si on calcule bien, aux Antilles. Elle est métisse, mais ça se voit peu, et pourtant ça pèse énormément. Elle a un grand-père qui est blanc, qui au départ est assez prospère, puisqu'il possède une distillerie de rhum. Ce grand-père, il a eu 7 enfants avec une indienne, 7 enfants qu'il a reconnus avec une certaine réticence, et peut-être pour les mauvaises raisons, c'était pour ne pas aller faire la guerre, parce que quand on avait 7 enfants, on était exempté. Et ce grand-père aimerait bien interdire à ses enfants de se marier pour ne pas risquer une descendance qui pourrait ne pas être uniquement blanche. Alors, certains échappent à l'interdiction, c'est pour ça qu'il y a une petite fille qui est donc cette Paula. C'est son histoire qui est racontée à une narratrice qui enquête sur la famille et qui fait quelques apparitions brèves à des moments clés du roman. Mais ce roman, il naît d'une hantise qui est justement aux Antilles de ne pas être totalement blanc. C'est un fantasme, c'est une idée, c'est une peur qui existe encore aujourd'hui.
Oui, alors évidemment, aux Antilles, il y a eu l'esclavage. Ensuite, après l'abolition de l'esclavage, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a eu une période d'un siècle qui était celle de la colonisation. Cette période de la colonisation a repris les préjugés raciaux qui avaient cours déjà aux Antilles. Cette peur du métissage vient aussi d'un décret qui avait été pris par Napoléon en 1805 et qui interdisait le mariage, l'adoption, la reconnaissance des enfants naturels et la transmission de l'héritage entre personnes de couleurs différentes. Parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe aux Antilles, c'est qu'en fait, les béquets, c'est surtout l'héritage, la transmission du nom et la transmission de leur fortune qu'ils ne veulent pas transmettre à des personnes de couleur.
Alors Anne Terrier, vous nous parlez de béquets. Dites-nous en une phrase ce que c'est.
Alors, les béquets, ce sont les descendants des colons qui étaient autrefois propriétaires d'esclaves et propriétaires des grandes plantations de canne à sucre avec lesquelles ils ont fait fortune. Cette peur, en fait, on n'en parle pas. Le métissage a toujours existé malgré la ligne de couleur, comme on disait. Au départ, essentiellement entre les blancs et les noirs, on appelait les mulâtres, donc les métis blancs et noirs, qui autrefois formaient une classe sociale. Ce n'est plus le cas actuellement. Il y a des noms extrêmement divers pour désigner les couleurs de peau, donc les mulâtres, les coulis qui désignent les Indiens, les chapécoulis, donc les descendants des Indiens, il y a des béquets goyaves, il y a des capres, il y a un vocabulaire pour les couleurs de peau. Par contre, pour le préjugé de couleur, il est un peu sous-jacent à la société antillaise et il n'est pas nommé et il est souvent pas reconnu, en tout cas officiellement, il est très inconscient dans les mentalités.
Alors Anne Terrier, si on revient au titre de votre livre, il s'appelle « La nuit, tu es noire, le jour, tu es blanche ». C'est une phrase, c'est même une adresse à quelqu'un qu'on tutoie. Dans votre titre, il n'y a pas de « je », alors que le personnage central, c'est Paula. Est-ce que ça veut dire que Paula, elle aurait du mal à dire « je », justement ?
Au départ, cette phrase est une phrase prononcée par le fils de Paula quand il est jeune, un petit garçon de 10 ans. Il s'adresse à sa grand-mère et sa grand-mère se plaint régulièrement d'avoir la peau sombre. Elle dit qu'elle a la peau couleur d'esclave. Et un jour, Jean-Bernard, le petit garçon, pour consoler sa grand-mère, lui dira « Mais c'est pas grave, mamie, la nuit tu es noire, le jour tu es blanche ». Il est vrai que cette phrase pourrait effectivement s'adresser en fait à tous les métis. Ce ne sont pas tellement les gens eux-mêmes qui se définissent comme métis, mais souvent c'est le regard de l'autre qui vous assigne une identité ou noire ou blanche. Moi je suis donc descendante d'esclaves et Paula à l'inverse est descendante de colons. Mais nos deux histoires familiales, si vous voulez, ont un point commun, c'est-à-dire que nous avons toutes les deux une ancêtre esclave, mais la différence, c'est que dans la famille de Paula, dans une famille de Beke, le métissage est très mal vu, donc le regard que sa famille porte sur elle est négatif, alors que dans les familles de descendants d'esclaves, le métissage est tout à fait accepté et même il est valorisé si votre peau est plus claire que si elle est plus foncée, et donc le regard que votre famille porte sur vous est positif.
Il n'empêche que votre Paula, on a l'impression parfois qu'elle ne sait pas exactement qui elle est, et en tout cas qu'elle a une immense surprise quand elle découvre quelles sont ses origines. C'est l'un des moteurs du livre, en fait.
Alors, la difficulté, effectivement, pour Paula, c'est qu'elle a été très marquée par son enfance. Déjà, elle n'avait que 6 ans quand ses parents, qui habitaient en Martinique avec leurs enfants, l'ont envoyée vivre sur l'île de Marie-Galante, dans la famille maternelle. Donc déjà, elle est séparée de ses parents. Elle n'est pas du tout heureuse dans cette famille, malgré un certain confort. Mais brusquement, un jour, elle fait effectivement la connaissance de sa grand-mère, dont elle ignorait totalement l'existence, puisque la grand-mère ne vit pas du tout avec les autres membres de la famille. La grand-mère vit à l'écart du bourg, dans une toute petite maison, du point de vue de Paula, qui est en fait une ancienne case d'esclaves. Et cette grand-mère a la peau sombre. Et donc ses oncles expliquent à Paula que non, sa peau n'est pas noire comme celle des domestiques qui, eux, venaient d'Afrique, mais qu'elle a la peau sombre des Indiens du sud de l'Inde, puisque c'est de là que venait la mère de cette grand-mère, Augusta.
Ce sont donc ceux-là qu'on appelle les chapécoulis.
Voilà. Les coulis sont les Indiens qui sont venus d'Inde donc après l'abolition de l'esclavage, même relativement tôt dans les années 1850-55. Donc c'est une émigration de masse qui a été organisée par la France pour remplacer les anciens esclaves. On dit plus coulis en Martinique et davantage Indiens en Guadeloupe. Et ces coulis ou ces Indiens étaient embauchés sur des contrats de 5 ans. Mais dans des conditions de travail et d'hébergement presque aussi mauvaises que celles des anciens esclaves, ce qui fait que beaucoup sont morts de faim ou beaucoup sont morts de maladie. Et les chapécoulis, en fait, ce sont les descendants des coulis, ceux qui ont échappé à cet enfer, on va dire, de la condition d'engagé et qui ont la peau un peu plus claire que leurs parents, puisque souvent ils sont mélangés, ils sont métisses.
Alors Anne Terrier, puisqu'on parle de votre livre, La nuit tu es noire, le jour tu es blanche, est-ce que vous accepteriez de nous en lire un court extrait ? Il s'agit donc de l'apparition de la grand-mère de Paula, que Paula ne connaît pas, donc forcément ça lui fait un choc quand elle voit cette Augusta.
Augusta apparaît alors. Son pas traînant, sa robe de coton bariolée, ses formes généreuses, ses cheveux blancs, tout en elle évoque effectivement la grand-mère. À l'exception d'une chose, un détail que l'on avait oublié de mentionner, une incongruité dans une famille de Beke. Comment cette femme noire peut-elle être la femme de son grand-père, propriétaire d'une plantation dont tous les serviteurs sont noirs? Comment peut-elle être la mère de sa propre mère? Le monde de Paula, déjà privé de fondation, suspendu au-dessus du vide, comme le balcon de sa chambre au-dessus de la mer, vole en éclats. Plus tard, lui reviennent des bribes de conversation des domestiques qui, lorsqu'ils sont dans le jardin, commentent à voix basse les faits et gestes de la famille. La vieille dont il parle, se demandant s'il va enfin l'épouser après lui avoir fait cet enfant, peut-elle être Augusta ? Et cette interdiction révoltante à laquelle ils font parfois allusion, se désolant autant pour Mimoun que pour ses frères et sœurs, et admirant le courage de Césarine, quelle est-elle ? Les réponses qu'Amédée, le lendemain, s'efforce d'apporter aux questions des enfants ne dissipent en rien le mystère. Ce qu'elle a vu ne correspond pas à ce qu'on lui a dit. Qui croire ? Ses propres yeux ou la parole des adultes ? À 10 ans, c'est à peine si la question se pose. « Oui, dit Amédée, Augusta est née comme cela. Non, elle n'est pas noire. En tout cas, pas de la même façon qu'Agnetti ou que Madame Choukoutou. Augusta ne vient pas d'Afrique, mais d'Inde. C'est pour cela que sa peau est moins sombre que la leur et que ses cheveux sont presque lisses. »
Merci beaucoup pour cette lecture. Donc, il y a beaucoup de personnages dans votre livre, puisque Paula a 4 frères et sœurs, qu'elle a de nombreuses tantes et quelques oncles, et que tout ça, au départ, vient de la famille Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, là, on sent une bonne vieille famille française, catholique, etc. Le nom a beaucoup d'importance aux Antilles.
Aux Antilles, on reconnaît les ascendants à leur nom. Les descendants d'esclaves ont tous des noms très particuliers. À l'abolition de l'esclavage, on leur a attribué un nom totalement au hasard ou en fonction de caractéristiques physiques, en fonction de l'officier d'état civil qui était là et qui décidait qu'un tel s'appellerait d'un nom ou d'un autre. Donc, quand on s'appelle Saint-Sulpice, on comprend à peu près que vous n'êtes pas descendant d'esclaves.
Et il y a tout un jeu de temps en temps avec les noms, ou même avec les prénoms, puisque vous dites à un moment que parfois, on inverse les prénoms dans une intention tout à fait différente.
Voilà, alors ça, c'est effectivement une particularité des Antilles, qu'on soit descendant d'esclaves ou descendant de béquets. Et l'objectif, c'est d'éviter que les quimboiseurs, comme on dit là-bas, c'est-à-dire les esprits méchants et malveillants, viennent enlever les petits-enfants à leur famille. Donc on inverse le premier et le deuxième prénom, pensant qu'ainsi l'enfant est protégé, puisqu'on ne sait plus, on ne le reconnaît pas, on ne saura pas qui il est.
Donc on vit dans une société du cache-cache d'une certaine façon.
Effectivement, des identités multiples, c'est tout à fait ça. Mais c'est vrai que la société antillaise est une société extrêmement métissée. Elle s'est fondée donc à la base sur les colons, ceux qui venaient d'Europe et ceux qui venaient d'Afrique. Ensuite sont arrivés les Indiens, ensuite sont arrivés des nègres Congo, comme on appelait, c'est-à-dire des travailleurs volontaires, cette fois qui venaient d'Afrique. Ensuite sont arrivés des Libanais, des Syriens, des Chinois, voilà. Donc c'est une société dans laquelle tout le monde se mélange. Et peut-être qu'effectivement, ce vocabulaire très précis sur les couleurs de peau, c'est aussi une façon d'essayer de comprendre quelles sont les origines des gens. C'est une société avec des origines très diverses.
Et avec aussi toujours le risque de l'insulte. Un personnage politique assez important se fait assassiner par deux des personnages qui appartiennent à la famille centrale de votre roman, peut-être à cause de rivalités économiques ou politiques, mais à un moment on se rend compte que c'est parce que les deux meurtriers en fait se sont fait insulter. Ils sont blancs en apparence, mais ils ont donc une grand-mère indienne et on les a traités de indiens.
Voilà, c'est ça. Et souvent, il y a effectivement une connotation très méprisante dans tout ce vocabulaire. Derrière ces problèmes de couleur de peau, c'est aussi une question sociale, de hiérarchie sociale, de culture, de richesse, d'éducation. À un moment, je me suis demandé si les métis, en fait, qui étaient donc à la fois blancs et noirs, donc quelque part dans leur ascendance, appartiendraient à deux classes différentes, si ça ne serait pas pour parler un peu comme Annie Ernaux, des transfuges de classe.
Si on revient justement à ce vocabulaire de l'insulte, je repense aux Indiens. Les deux meurtriers ont probablement été traités de Indiens. Indiens, c'est du français populaire ou c'est du créole? Est-ce que de temps en temps, au niveau du registre justement de l'insulte, on ne sait plus trop si c'est du créole ou du français?
Je pense que c'est une forme de créole. Un mélange peut-être. Les blancs sont parfois appelés donc, par les personnes de couleur des oreilles. Donc le Z, déjà, c'est sûr que là, c'est sonorité créole dans cette façon de parler. Mais c'est effectivement une des caractéristiques des Antilles, c'est la richesse de ce vocabulaire, la richesse de la langue en fait.
Revenons un moment à votre héroïne principale, Paula, dont on disait tout à l'heure qu'elle avait 4 frères et sœurs, ils sont 5. Et à un moment, d'ailleurs, elle dit « je suis celle du milieu », voulant dire par là qu'elle ne sait jamais très bien où elle est. Est-ce qu'elle a plus d'affinité avec les deux aînés ou avec les deux plus jeunes, ou est-ce que c'est la laisser pour compte en fait de toute cette fratrie? Je reviens à cette question, est-ce qu'elle peut dire je vraiment par rapport à son identité, sa couleur de peau, mais aussi par rapport à sa famille et par rapport à sa généalogie et à sa naissance?
Alors c'est effectivement celle qui se sent laissée pour compte. On ne sait pas si elle l'est réellement, mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle se vit. Elle se sent étrangère, en fait, à l'univers dans lequel elle est, dans lequel elle vit. Donc, de toute façon, c'est une petite fille paumée et tout au long de sa vie qui va avoir du mal, en fait, à se situer, à trouver sa place. Déjà qu'elle ne trouve pas sa place dans sa famille, ensuite, elle trouve difficilement sa place dans la société en général, et ensuite dans son mariage aussi. Et en fait, c'est quelqu'un qui, effectivement, a des difficultés à trouver sa place, mais on peut comprendre, vu son enfance. Elle est née en Martinique. Ensuite, on l'envoie vivre à Marie-Galante. Elle revient en Martinique où là, elle va retrouver sa famille. C'est la seule période un peu plus stable, on va dire, dans sa jeunesse. C'est aussi la période où elle fait ses études d'infirmière. Et ensuite, effectivement, elle part en France, elle se marie et elle part au Maroc. Donc, tout ça, effectivement, c'est une difficulté, mais c'est aussi un voyage à travers différentes colonies. Le Maroc était un protectorat plutôt qu'une colonie, mais pour elle, c'est un voyage dans lequel elle est entraînée. Ce n'est pas de sa propre initiative, elle est toujours emmenée ou par ses parents ou par son époux. Et en fait, c'est une femme dont on a l'impression qu'elle ne décide rien de sa vie, qu'elle est impuissante et qu'elle se laisse ballottée par les événements de la vie. Alors en fait, elle se construit avec la honte. Je pense qu'elle porte à la fois la honte de sa mère et la sienne propre. Quand elle était enfant, donc elle a découvert sa grand-mère, elle a bien vu que la famille la mettait à l'écart. La grand-mère Augusta, qui est d'origine indienne, elle était enfant, donc elle n'a pas pu exprimer avec des mots, mais je pense qu'elle a ressenti très fortement cette honte de la famille Beke par rapport à cette grand-mère indienne. Et ensuite, sa propre mère Césarine, qui elle a aussi la peau sombre, a entretenu cette honte familiale, ce qui fait que Paula s'est construite avec la honte. Et la honte et le silence, ça va aussi avec, c'est-à-dire on ne parle pas de cette honte. Et il y a aussi une chose qui est simplement suggérée dans le livre, c'est que donc la grand-mère Augusta est très probablement née du viol de sa propre mère par le patron Beke qui l'employait. Alors ça, la famille passe un peu sur cet épisode-là, mais tout ça fait des hontes familiales féminines qui se transmettent de femme en femme, et c'est difficile pour une petite fille de se construire avec ce poids sur les épaules.
De femme en femme, dites-vous, et en effet, tout l'univers du livre est extrêmement féminin. C'est très souvent des gynécées, hein, quand on voit ce qui se passe autour de Paula.
Alors oui, bon, il y a des familles comme ça où les femmes sont plus représentées en nombre, mais aux Antilles, les femmes aussi ont un rôle particulier. On dit souvent que la femme, c'est le potomitan, c'est-à-dire le pilier central de la famille. Alors, c'est à double sens, hein, cette expression, parce que c'est généralement pris de façon positive, c'est-à-dire la femme solide, qui fait bouillir la marmite, qui s'occupe des enfants souvent assez nombreux. Mais on peut dire aussi que c'est une forme d'exploitation aussi de la femme, hein, qui prend tout sur ses épaules, et les hommes ont souvent un rôle un peu à part et un peu différent, mais tout ça vient de l'esclavage où les hommes étaient à part et les enfants vivaient avec la femme. C'est toute la société antillaise aussi qui se reflète dans ce mouvement des femmes dans les familles antillaises.
Alors Anne Terrier, un mot sur la façon dont le roman est structuré, puisque on entend essentiellement l'histoire de Paula, mais on s'aperçoit à quelques moments clés quand même qu'il y a une enquêtrice, qu'il y a une narratrice qui est là, qui ne dit pas son nom, qui dit qu'elle est métisse, on le sait à l'extrême fin du livre, et qui est là pour faire raconter à cette vieille dame de 98 ans, mais qui a encore sa tête et sa mémoire, toute son histoire. Et son histoire donc va se reconstituer pas à pas. Mais c'est pas Paula qui l'a dit. Elle l'a dit parce qu'elle est interrogée. Donc c'est encore quelqu'un d'autre qui va être à l'origine de l'histoire.
Alors effectivement, c'est un procédé narratif qui a deux objectifs. Le premier, c'est de montrer que quand on raconte une histoire, on la raconte toujours à quelqu'un. Et ce quelqu'un entend l'histoire qu'on raconte avec sa propre personnalité, avec sa propre histoire, avec peut-être aussi des schémas qu'il peut avoir dans la tête. Et donc, ce n'est pas neutre de raconter son histoire à quelqu'un. Le deuxième objectif, c'était aussi pour ramener l'histoire de Paula dans le présent. Parce que l'histoire de Paula se déroule donc au XXe siècle, à l'époque de la colonisation. Mais la narratrice qui parle avec elle et qui l'interroge est dans le présent. Et ce que je voulais montrer, c'était qu'en fait, ces problèmes de préjugés de couleur et cette question de l'identité antillaise et du métissage a lieu encore aujourd'hui et que ces préjugés ruissellent, on va dire, dans les mentalités depuis l'époque de la colonisation et de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que ma narratrice, elle, est dans le présent.
Eh bien, merci beaucoup, Anne Terrier, pour cette entrevue. Je rappelle que vous venez de faire paraître aux éditions Gallimard, dans cette collection Continent Noir, ce roman « La nuit, tu es noire, le jour, tu es blanche ».